énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
démocratie,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental pour vous divertir, mais surtout, mais oui, pour vous informer. On commence comme toujours par l'essentiel sur revue de l'actualité en environnement. Cette semaine, il sera question de plus acides, de développement durable, de vieux bateaux rouillés et polluants, de changement climatique, de développement durable et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, bien entendu. Dans un deuxième temps, le magazine L'État de la planète, vous connaissez? Oui? Non? Peut-être? Le livre L'État de la planète 2005 vient de sortir le titre cette année de ce rapport important, Redéfinir la sécurité mondiale. S'il y a un thème à la mode depuis 2001, c'est bien celui de la sécurité, mais selon le World Watch Institute, la pauvreté, la maladie, le déclin environnemental constituent le véritable axe du mal. Pour nous présenter ces deux références incontournables en environnement, on a bonheur de recevoir M. Benoît Lambert, rédacteur en chef du magazine L'État de la planète et éditeur de la version française du livre du même nom. Et on termine bien sûr Delirium Environnemental par les coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Sofiane Legendre au micro pour vous divertir, mais surtout, je l'espère, vous informer. En ma compagnie en studio cette semaine, j'ai l'immense bonheur d'avoir avec moi Nicolas Mainville et Hugo Lachapelle. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Vous savez que Delirium Environnemental, c'est possible grâce à une équipe magique. Outre les deux en studio avec moi, donc Hugo et Nicolas, il y a la régie mise en onde, concepteur du site web et idéateur de plein de choses autres que ça. Étienne Côté-Paluc, je vous rappelle que Delirium Environnemental, c'est un site internet que vous trouvez au www.radiodelirium.net. C'est également une cyberlette qui fait une veille médiatique pour vous en environnement à laquelle vous pouvez vous abonner à partir de notre site internet. Et c'est bien sûr l'émission de radio qui serait pas possible sans les deux autres joyeux lurons qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont là avec nous dans nos cœurs, bien sûr. Comment s'en passer? Nicolas Milot et Patrick Bonin qui seront probablement de retour la semaine prochaine, enfin, nous l'espérons. Un beau bonne chance à Patrick pour son mémoire. Go, Pat, on est avec toi. On croit en toi. Donc, écoutez, je commence par... on commence de plus en plus souvent par la petite section humeur à Delirium Environnemental. Moi, l'humeur, cette semaine, je le fais peut-être en retard, mais comme le dit MC Solar et comme j'aime bien le répéter, prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, je me suis fait poser une drôle de question qui, à tout, à prime abord, m'a un peu choquée. Messieurs, je vous la repose pour avoir votre avis. Selon vous, le point de vue des femmes est-il un facteur de changement pour la société?
Ah, ah. Évidemment, évidemment.
Ah, et, Nicolas Mainville, je reconnais.
Même que je dirais que c'est un point essentiel de la société, sans vouloir me faire l'avocat, n'empêche que c'est un point essentiel.
Parce que ça représente l'autre moitié ou parce qu'il y a une différence?
Je dirais même plus que la moitié, en fait, si on regarde les statistiques.
Hugo, d'après toi?
Ben, sans vouloir faire de généralisation, moi aussi, je serais pas mal convaincu que oui, malgré le fait que, bon, on s'aperçoit dans notre société que les rôles sont parfois un peu confondus et que donc, finalement, la position de genre n'a pas nécessairement toujours un impact là, si considérable que ça.
Tout à fait. D'ailleurs, mon premier roman commencera par « Avec tout qui veut plus rien dire ». Mais c'est une autre histoire. Donc, moi, on m'a posé la question, messieurs, vous m'impressionnez par vos points de vue, parce que moi, à prime abord, j'avais le goût de dire « Ben non, il y a autant de points de vue de femmes qu'il y a de femmes. Il y a une multiplicité de ces points de vue-là, autant que du point de vue des hommes. » Mais une autre partie de moi me criait que, ben non, il y a une différence, on n'aborde pas les choses de la même façon. Puis la première chose qui me venait en tête, et c'est presque, ça relève presque du préjugé, c'est l'océan d'émotions que parfois les femmes savent si bien être dans la vie, de se laisser mouliner par le senti, par l'intangible, par ce qui relève du sentiment ou du senti. Ouf.
Et là, tu fais référence à Monique Jérôme Forget ou à Sheila Copps?
Pas à Thatcher non plus. Non, mais c'est ce qui me venait en tête, que dans ce qui faisait une différence notable, c'était ça. Mais donc, ma première réponse, c'est non. Ensuite, oui, peut-être un peu. Puis là, j'ai pensé pour le champ spécifique, en environnement, est-ce que les femmes ont fait la différence? Bien, force est de constater que oui, vraiment, le point de vue des femmes a fait une différence en environnement. Je vous donne une série d'exemples pour appuyer mon propos. D'abord, je vous parlerai d'Alice Hamilton, qui est la première femme professeure à l'école de médecine de Harvard, qui a été acceptée comme professeure à la condition explicite qu'elle ne s'inscrive pas au club de golf et qu'elle n'aille pas au club de ces messieurs. Je ne sais pas de quoi il y avait peur. Donc, première femme à l'école l'école de professeur à l'école de médecine de Harvard qui, en 1919, et on se souvient qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, liait déjà santé environnementale, santé au travail, protection des droits et politique publique en matière de travail et d'environnement. Cette femme-là, c'est la première qui a fait un lien entre l'impact du plomb sur les activités neurocérébrales des jeunes enfants, tout particulièrement. Et c'est la première qui s'est aperçue que les réseaux d'acaduc et les réseaux d'égouts en ville avaient une incidence, la qualité des réseaux d'acaduc avait une incidence sur la santé des populations, chose qui est quand même importante. En 1919, c'était réellement une pionnière. Un peu plus tard, Rachel Carson, célèbre biologiste qui écrivit le livre Le printemps silencieux, pour parler de l'impact d'un pesticide sur les écosystèmes, qui nous montrait vraiment comment la santé des écosystèmes était déterminante pour la santé des populations, que ce soit animales ou encore humaines. Donc, Rachel Carson, deuxième femme importante. Ensuite, on la connaît peut-être, celle-là, on la connaît aussi, Gro Harlem Brundtland, la femme qui a présidé la Commission sur l'environnement et le développement durable. Travail important, c'est quand même elle qui a participé à la popularisation du concept de développement durable. Bien sûr, maintenant, on en fait tout et n'importe quoi, mais quand même, à la base de cette vision-là, c'était une femme, encore une fois. C'est pas encore suffisant. Ben, Theo Colburn, qui en 1996 publiait un livre également qui parlait de l'impact sur la santé des produits toxiques, même à de très faibles doses. C'est pas encore suffisant. Vandana Shiva, Rico Aperto Manchu, plus proche de nous, Elizabeth May, présidente du Sierra Club Canada, qui fait un travail exceptionnel. Encore plus proche de nous, Donna Merglers, Louise Van Black, Laure Varidel. La liste est vraiment longue, puis je pense vraiment que ces femmes-là ont changé peut-être la façon dont on abordait. Puis je me suis demandé, qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est peut-être que c'est génétiquement en nous, les femmes, d'avoir ce lien-là de la filiation, de savoir que non, on est responsable de notre prochain, on doit faire attention, mais surtout que le lien de filiation dans le sens que, oui, la responsabilité, mais simplement le lien. On est tous en lien, puis on peut pas faire comme si de rien n'était.
Mais définitivement, je pense que les femmes ont contribué beaucoup à transformer la perception de l'environnement, de l'étude de l'environnement simple en soi, à la compréhension d'un phénomène beaucoup plus vaste qui affecte les sociétés. Et le mouvement écoféministe a participé, je pense, beaucoup à contribuer au développement de tout le phénomène de justice environnementale, ce qu'on appelle le « environmental justice ». Où on parle des populations qui sont plus démunies, des différences de genre dans les effets que l'environnement peut avoir sur différentes personnes.
Alors oui, à l'égalité, mais aussi à la reconnaissance de la différence. C'est notre petite réflexion. Merci beaucoup de m'avoir permis de la partager avec vous tous sur la part des femmes à la société. Mais vous êtes vraiment vendu, vraiment votre point de vue en début d'émission était clairement... On voit que les gars qui s'intéressent à l'environnement, c'est des...
Mais moi, ce qui m'étonne, Sofiane, c'est que t'as pas mentionné Brigitte Bardot dans cette histoire. Je veux dire, une personne aussi dévouée à la cause environnementale.
Passons. Il y a tellement de choses intéressantes desquelles on peut parler aujourd'hui. D'ailleurs, à ce sujet, cette semaine à Montréal, se tenaient les consultations publiques sur le plan de développement durable. Chose importante, on se souvient que le ministre Mulcaire a présenté en novembre ou décembre de 2004, donc l'année qui vient de passer, un plan de développement durable. Non, pas du tout. Donc, on a présenté un plan de développement durable. Et puis, les consultations avaient lieu lundi et mardi à Montréal. Donc, 1,5 million de personnes à consulter. Nous, on fait ça en 2 jours, pas de problème. Nicolas Mainville, tu y as participé. Tes impressions?
J'étais là et il n'y avait aucune femme sur le podium, en fait.
Tu pas le souper?
Non, probablement pas. En fait, ce qui s'est passé, j'ai été... agréablement surpris d'un côté et très déçu d'un autre côté, c'est-à-dire qu'il y avait une assistance très faible dans la salle. Vous savez que c'est seulement ces 2 jours-là qui se passaient à Montréal pour la consultation. Vous savez que le ministre Mulcaire se promène dans la province depuis maintenant 1 mois et il y a encore un autre mois assez ardu de consultation partout au Québec pour savoir ce que les gens pensent de ce superbe plan de développement durable ou en fait ce projet de loi.
On va s'arrêter ici, on va laisser les gens patienter un peu, mijoter tout ça et au retour, tu nous expliques un peu ce que t'as vu et surtout entendu là-bas. Retour à Délirium environnemental. On vous parle toujours des consultations publiques sur le plan de développement durable qui avait lieu lundi et mardi à Montréal. Donc, Nicolas Mainville, tu y as participé. participé. Tu nous as parlé un peu de ce que tu avais vu, donc pas une très grande participation, ce qui n'est pas nécessairement représentatif du nombre de mémoires qui ont été déposées.
C'est ça, c'est ça. Il y a une bonne participation de mémoires, plus de 30 mémoires qui ont été déposées pour la région de Montréal. Mais c'est plus dans la salle. En fait, le feeling que j'ai eu dans la salle, ça m'a surpris, surtout dans la période de questions. Vous savez, la dernière période de la journée avec le ministre, c'est la population, le citoyen qui peut aller jaser avec son ministre de l'Environnement. Je m'étais fait comme idée que plusieurs personnes et individus auraient pris cette occasion pour soit aller vider leur sac ou au moins jaser avec le ministre, présenter leurs idées. Ça s'est fait, mais dans une très faible proportion. Je pense qu'on était maximum une trentaine dans la salle qui se passait au métro Laurier. Et puis, bon, le feeling, je pense que j'ai eu, ça a été, premièrement, j'ai été surpris par les positions du ministre. Je pense que M. Mulcair s'est fait une idée assez claire de son plan de développement durable, premièrement. Ça fait déjà un mois qu'il roule. Et je dirais qu'il a aiguisé ses arguments assez bien depuis les premières consultations. Il y a eu certaines confrontations assez juteuses, notamment avec le mémoire d'Abitibi-Consol. Abitibi-Consol qui est venu prendre une position assez, je dirais, assez drastique sur le plan de développement durable, qui proposait carrément de faire une politique et non pas une loi sur le développement durable. Vous savez que un des gros points de ce plan, c'est un avant-projet de loi, donc qui ferait office de loi dans cette superbe société québécoise. Et puis, Abitibi-Consol qui se présente en tant qu'industrie forestière avec une position du type « il faudrait ménager cette loi, il faudrait en faire une politique pour pas qu'elle ait trop d'influence. »
On veut des mesures volontaires, c'est
exactement.
Trop contraignant.
Il ne faut pas faire entrave à la durabilité de la compétitivité internationale de l'industrie et des choses comme ça. Bon. Et puis, M. Mulcair qui s'est fâché. J'ai vu M. Mulcair fâché, j'en prends bonne note, et qui a carrément dit à l'industrie, écoutez, je pense que c'est beaucoup trop audacieux de venir vous présenter ici devant moi aujourd'hui avec une position aussi... aussi, je dirais, non progressiste après le rapport Coulombe qui montre que la forêt a été surexploitée, qui montre qu'on s'en va vers des pénuries de bois, qui montre aussi que l'industrie a un rôle à jouer là-dedans. Va se répondre cette superbe Abitibi-Consol pour dire, écoutez, nous autres, on a suivi les quotas du ministère de l'Environnement, du ministère des Ressources naturelles, pardon. Donc, un beau petit débat qui s'est passé. Ça, c'est un genre le gros highlight de la journée.
Autre chose qui avait été souligné par, entre autres, quelques groupes environnementaux, quoique plusieurs sont très positifs de ce plan-là, par rapport à ce plan-là. Par contre, certains soulèvent le fait qu'il y a beaucoup entre des lèvres à la coupe, c'est-à-dire que c'est bien beau d'en parler, mais encore faudrait-il remettre plus d'effectifs dans le ministère de l'Environnement? On se souvient que le nombre de fonctionnaires a été coupé de moitié, puis ensuite remonté un peu, mais c'est quand même seulement le deux tiers des effectifs qu'il y avait au préalable. Ces coupures-là avaient eu lieu sous Bouchard. Et puis, donc, d'une part, et d'autre part, le financement aussi a été coupé de moitié. Et puis, l'autre critique aussi qui est souvent émise par rapport à ce plan-là, c'est de dire que si le ministère de l'Environnement devient le ministère du Développement durable, sachant que c'est un des enfants pauvres du gouvernement, de quel genre de moyens et d'outils va-t-il disposer pour faire appliquer, mettre en œuvre ce beau plan de développement durable?
Bien évidemment, les gens se sont permis de poser des questions sur ce dossier-là, surtout sur les coupures dans le budget du ministère de l'Environnement. Et M. Mulcair a rétorqué de façon très fière, écoutez, c'est moi qui ai fait les coupures de 8% dans le budget du ministère de l'Environnement, avec fierté, puisque dans sa vision... on dit coupure dans le budget, donc coupure dans la bureaucratie. Et pour lui, c'est une lutte contre la bureaucratie et l'inaction ou la lenteur de la machine bureaucratique du ministère de l'Environnement. Ce qui est un bon point, en fait, point de vue bureaucratie, je suis tout à fait d'accord. Peut-être couper la bureaucratie pourrait être intéressant, mais on n'est pas obligé de couper les budgets pour faire ça. D'autant plus qu'il y a plusieurs organismes au sein, plusieurs divisions au sein du ministère de l'Environnement qui sont extrêmement sous-financés et que en ce moment, ben, on subit les conséquences de ça, notamment sur la question des aires protégées. Je pense qu'il y a vraiment une réévaluation à faire, point de vue budget du ministère de l'Environnement. Puis c'est dommage de voir ces positions-là. Vous savez, M. Mulcair est vraiment un fervent défenseur des diminutions d'impôts et diminution de la taille de l'État. Donc, ça l'a fait certains clashs durant les consultations. C'est intéressant à voir.
Consultation, rapport de cette consultation-là qui sera à consulter, bien entendu. J'imagine que les gens peuvent consulter les différents mémoires qui ont été remis.
Il y a certains mémoires qui sont en ligne sur le site du MEMV, donc memv.gouv.qc.ca. Vous pouvez aller voir ça, c'est pas tous les mémoires qui sont là. Je sais que les consultations comme telles sont enregistrées. Pour l'instant, elles sont pas accessibles sur le site Internet, mais j'imagine qu'éventuellement, ça va être accessible.
Donc, dossier à garder à l'œil, bien entendu, parce que les idées sont belles, les idées sont nobles, et encore une fois, c'est de voir comment on va pouvoir les mettre en application.
Étrangement, ce matin, dans Le Devoir, on présentait la consultation comme ayant été assez... Bon, on disait que les gens ont été quand même assez favorables. Les groupes environnementaux aussi, ça a été une consultation quand même assez heureuse.
Tout à fait, mais je pense que de plus en plus, on travaille au niveau des solutions, de plus en plus, et on a pour la stratégie de la collaboration pour faire avancer les gens. C'est pas non plus de revendication, de la contestation.
Non, mais c'est le manque de crédibilité, par contre, qui vient miner le projet.
Entre autres, personnes qui l'ont fait remarquer, Corinne Gendron, dans un article sous la plume de Charles Côté dans la presse, qui disait justement, écoutez, qui soulevait ces questions de financement, de taille du ministère, etc. Pour ceux qui voudraient consulter le mémoire, ils ont fait un mémoire qui s'intitule « Quel plan de développement durable pour le Québec? » Donc ça, c'est la chaire économie-humanisme, une chaire qui travaille très bien, ils font des travaux très intéressants et tous leurs travaux sont toujours disponibles en ligne. Donc si vous voulez vous faire une tête sur c'est quoi le développement durable, pourquoi, comment et qu'est-ce que ça représente pour le Québec, la chaire économie et humanisme de l'UQAM peut être un bon allié pour se faire une tête. Si vous permettez, on va s'arrêter ici. On parle beaucoup de développement durable, on aura l'occasion d'en reparler. Mais au retour, on va vous parler de d'autres choses, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont moins bien. Entre autres, on vous parle de pluies acides. Le bilan n'est pas super, super. Vous écoutez toujours Delirium environnemental. Je vous rappelle que les nouvelles desquelles on va vous parler dans la revue presse qui s'en vient sont toujours disponibles au www.radiodelirium.net et qu'à ce site Internet, vous pouvez également vous inscrire à notre cyberlette. On vous envoie ça une fois par semaine. Ça vous permet de réécouter les émissions de radio, mais également de vous tenir au courant de ce qui se passe en environnement. C'est important.
Il y a toujours aussi une section calendrier si vous avez le goût de vous tenir au courant des activités qui se passent sur cette superbe île de Montréal ou dans cette superbe province.
Et beaucoup d'activités toujours, vous allez voir, dès que vous vous y mettez, vous n'aurez pas assez de jours dans votre agenda. En tout cas, je me comprends. Le retour des pluies acides, je pensais que c'était un problème qui était réglé, qui faisait la fierté des environnementalistes en disant c'est possible quand on s'attelle à un problème de les régler. Celui des pluies acides était souvent cité comme exemple. Nicolas Mainville, t'apprends cette semaine que finalement, peut-être pas.
Ben oui, peut-être pas. Puis t'avais raison en disant, écoutez, c'est vraiment la fierté des environnementalistes. En 94, le Canada et les États-Unis avaient signé un traité qui était assez clair sur la réduction des polluants qui causent les pluies acides, notamment les dioxydes de soufre et d'azote. Et puis on s'est retrouvé en ce moment confronté à des réalités un petit peu bouleversantes, point de vue changement, oui, mais changement de niveau d'acidité. Je suis tellement habitué de parler de changement climatique. Les pluies acides sont de retour sur le dossier parce que on a une étude d'Environnement Canada qui nous montre des chiffres un peu alarmants sur l'acidité des sols et puis l'effet que ça a sur les forêts, notamment dans l'est du Canada, donc Québec et les Maritimes. L'Ontario aussi serait affecté un petit peu et plus à long terme, même l'Ouest canadien deviendrait de plus en plus affecté. Vous savez qu'on a diminué de 50% les émissions de polluants et tout ce qui est relié à ce phénomène de pluies acides a été vraiment réduit.
Mais c'est pas encore suffisant.
C'est pas encore suffisant, puis on parle même qu'on devrait réduire de 75% encore une fois à ces émissions-là, puisque on est confronté, comme je disais, à des niveaux d'acidité dans les sols qui sont encore trop élevés.
Qu'est-ce que ça a comme impact sur les sols, le fait que le degré d'acidité dans les sols soit trop élevé?
Mais ce que l'acidité va provoquer, c'est qu'il y a certains éléments dans le sol qui tamponnent cette acidité-là, c'est-à-dire le calcium et le magnésium, entre autres, qui sont des nutriments essentiels pour la végétation. Bien, ces éléments-là vont se fixer aux particules acides, pour faire une idée très courte, là, vont se fixer à cette acidité-là pour essayer de diminuer l'acidité. Mais évidemment, ça va entraîner le lessivage de ces éléments-là, et donc l'appauvrissement des sols au fur et à mesure qu'il y a des pluies acides ou des apports acides d'acide qui tombe sur les sols. Donc, ce qu'on est en train d'observer, c'est cette accumulation-là d'acidité dans les sols provoque un appauvrissement des sols et donc affecte la productivité de nos forêts. Et puis, ça affecte tellement la productivité de nos forêts qu'on est en train de compter en millions de dollars la productivité de nos forêts et donc la perte de productivité due aux pluies acides. Un phénomène d'autant plus inquiétant puisque on est déjà en train de constater des gros problèmes de gestion forestière suite à la commission Coulombe. Et puis
on se souvient que la commission Coulombe recommandait une diminution des coupes de 20%, ce qui est quand même énorme.
Exactement. Ben en fait, c'est la possibilité forestière qu'on disait
qu'on
faut diminuer.
Qu'on avait surévalué.
Exactement. Et qu'il fallait diminuer de 20% pour s'assurer que, à long terme, on était toujours capable de fournir à nos superbes industries. Malheureusement, ce concept de pluies acides-là est directement relié entre autres centrales au charbon, mais aussi à l'industrie en général qui va produire justement ces émissions de dioxyde de soufre et dioxyde d'azote. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est louche. Parce que on a déjà fait des gros efforts, et puis là, on se retrouve à se dire, OK, est-ce qu'on continue dans la même veine? Est-ce que les États-Unis vont être d'accord à faire les mêmes efforts?
Parce qu'on s'imagine que si ça provient des centrales au charbon, c'est principalement dû à la production d'électricité au charbon par les États-Unis.
Exactement. Et le charbon, ce n'est qu'une des causes. Si on s'attaque à ce problème-là, il y aura évidemment perte de productivité industrielle et il y aura.
C'est à peine, as we say. Excusez-moi.
Donc, ce problème revient sur la sellette et c'est intéressant de voir ces chiffres-là. Je pense qu'on va pouvoir, dans les prochaines années, se questionner directement sur comment on peut réorienter notre industrie parce qu'on avait décidément mis de côté ce problème-là. Et puis, c'est dommage, mais ça nous revient en pleine poire. Donc, de voir, en fait, on parle, si vous voulez, des chiffres sur les pertes économiques que cela implique. On parle d'un demi-million de mètres cubes de bois seulement dans la forêt atlantique, dans le Canada atlantique, juste dû à l'augmentation de l'acidité des sols et la perte de nutriments par rapport à ça.
Pour moi, ça sonne une cloche par rapport au protocole de Kyoto, sachant qu'on s'est fixé des objectifs qui sont pas à la hauteur des espérances de changement, des changements climatiques, plutôt d'impact sur les changements climatiques. Et ça nous dit que, bon, on peut se fixer des objectifs et tenter de les atteindre, mais encore faut-il que ces objectifs-là soient à la hauteur des problèmes auxquels on est confronté. Dossier à suivre, très certainement. Merci beaucoup, Nicolas Mainville, pour les solutions.
C'est l'industrie, mais juste pour ramener juste un petit dernier point, une des principales victimes, c'est vraiment l'industrie du sirop d'érable. On en avait beaucoup parlé dans les années 90, mais les érablières sont grandement affectées par les pluies acides, et puis on est déjà en train de mesurer encore une fois les effets des pluies acides.
Donc, alors tout le monde, on vous invite à aller à la cabane à sucre ce printemps pendant qu'il en reste encore. Voilà, vous prendrez des photos pour vos enfants. Merci Nicolas. Hugo, pendant ce temps-là, parce que quand même la circulation automobile qui émet du dioxyde de soufre, si mes informations sont adéquates?
Non.
Pas de dioxyde de soufre?
C'est pas un grand émetteur de dioxyde de soufre, mais contribue.
Par exemple.
Surtout des NOx qui contribuent.
Parce que je cherchais mon lien pour amener le sujet. Hugo, la ville de Paris s'apprête à éliminer tout véhicule, toute voiture dans son périmètre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça me semble impossible.
Effectivement, les voitures émettent plusieurs polluants. Le dioxyde de soufre en est pas un d'eux. Mais par contre, les voitures émettent beaucoup de particules fines, de monoxyde de carbone, de benzène, des composés organiques volatiles et de dioxyde d'azote. Donc, dans les villes, c'est devenu une grande préoccupation. Et les villes sont les endroits dans la planète qui sont où il y a les plus grandes croissances de population et les plus grandes croissances de motorisation. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs villes qui ont eu plusieurs différentes solutions. On pense à la ville de Londres qui a établi un périmètre de où on a un certain péage pour rentrer sur la ville. Eh bien, la ville de Paris est en train de se dire que elle devrait peut-être faire la même chose. On vous a parlé l'année passée du fait que la mairie de Paris était en train d'envisager de bloquer tout ce qui était SUV, gros véhicules, gros cylindrés, dans sa ville. Eh bien, en fait, là, il y a un projet qui est en mouture depuis plusieurs années à la mairie de Paris, plutôt. qui nous dit qu'en fait on va tenter de fermer d'ici 2012 le cœur de Paris. C'est pas le périmètre au complet de Paris, mais bien un périmètre de 5,6 km². À quoi qu'on pourrait comparer ça ici à Montréal? C'est plus gros que le centre-ville, c'est plus gros que le plateau même.
C'est dur à évaluer.
C'est dur à évaluer.
C'est combien d'éléphants?
Un gros quartier. En fait, c'est trois arrondissements à Paris, trois arrondissements complets, si ça peut vous
inspirer. Et donc,
ils
mettraient en place le même type de mesures qui ont été mises en place à Londres, c'est-à-dire mettre un périmètre où est-ce que pour y entrer, les gens doivent payer.
Et non, en fait, c'est encore plus audacieux que ça, parce qu'on parle, d'ici 2007, à réduire la vitesse à 30 km/h, donc faire du traffic calming, mais aussi d'ici 2007, de pacifier tout ce qui est circulation automobile en supprimant des fils de circulation. Et là, il y a de plus en plus de travaux dans le monde qui sont en train de nous dire qu'en supprimant des voies routières, on n'est pas en train de créer plus de congestion, on est en train de s'en débarrasser parce qu'on change les habitudes de vie de l'automobiliste.
Il faudrait envoyer ça aux gens qui réfléchissent à la mise en place de l'allongement de la 25, de la 30, de la 116.
Et où est-ce qu'on les supprime, en fait, dans ce cas-ci à Paris, c'est sur le bord de la Seine, créer des pistes cyclables des deux côtés de la Seine, ça serait quelque chose qui réjouit beaucoup de monde. Entre 2007 et 2009, l'opération Paris Respire, donc l'opération qui interdit le dimanche toutes les voitures dans certaines zones, ça serait étendu à presque tout le périmètre de la ville. Et puis, d'ici 2012, tout ce qui serait non-résident n'aurait pas le droit carrément, ce serait pas une question de péage, ce serait carrément pas le droit de circuler dans les secteurs de l'arrondissement 1, 2 et 3.
Bonne nouvelle, Paris se dote de mesures probablement efficaces pour enrayer la contamination de l'air en milieu urbain. Bravo Paris.
On est fiers.
On va vous suivre bien vite.
Hey yo, pas de farce là, pas de 4x4 dans le 5x4. Hey toi, dans ton gros SUV.
Dans ton Suburban, t'es pas urban.
Petit palais de poule, c'est toi qui crevis de bouboule.
Dans ton Suburban, t'es pas urban.
Hey yo, combien de millages tu fais au galon? Dans ton camion, t'as George Bush à s'acheter des canons. Tu nous empestes avec tes émissions, des particules en suspension. Hey champion, pense-en un peu aux autres générations.
Hey yo, t'as fait une maladie dans les poumons. Ta femme est stressée dans un bouchon. Ton fils s'est fait frapper par un soulon dans un Yukon. Tu dois être plus gros que mon salon, gâte au vachon.
Alors comment ça se passe sur les routes là ce soir?
Eh bien oui, Jules. Même si le prix de l'essence a monté, nos autoroutes restent bloquées.
C'est quoi tu veux là? Bâtir des ponts? Des autoroutes en tronçon? T'es con, c'est pas une solution.
Le gouvernement ne donne pas d'option.
Restons.
Hey yo, j'ai des stats à la pluie, c'est après du trafic induit.
Fait que j'espère qu'on s'est clair avec les propriétaires. C'est vous qui polluez la terre avec vos gaz à effet de serre.
Dans ton Suburban, t'es pas urban.
Laisse ton camion à maison, mon frère.
Dans ton Suburban, t'es pas urban.
T'as pas de bon sens, faut en parler au maire.
Dans ton Suburban, t'es pas urban.